Bonjour à tous. J'aimerais reprendre l'étude, la réflexion sur la première épître aux Corinthiens. Je dis reprendre parce que c'est une série que nous avons commencé ensemble il y a un moment, il y a tellement longtemps que peut-être que vous avez du mal à suivre la continuité, mais ne vous inquiétez pas, on fera un petit rappel. On en est arrivé au chapitre 4 de cette épître, première épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Et je vais commencer la lecture à partir du verset 6. Mes frères, c'est à cause de vous que j'ai usé de ces images à propos de moi-même et d'Apollos. Vous apprendrez ainsi, à notre exemple, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, afin qu'aucun d'entre vous ne se gonfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. En effet, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier, comme si tu l'avais reçu? Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Si seulement vous régniez vraiment, alors nous aussi ne régnerions avec vous. Car Dieu, il me semble, nous a exhibés, nous, les apôtres, à la dernière place, comme des condamnés à mort. Nous avons été offerts en spectacle au monde, aux anges et aux humains. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes avisés dans le Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous, vous êtes glorieux, mais nous, nous sommes déshonorés. Jusqu'à l'heure présente, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au coup, à une vie errante. Nous nous donnons de la peine en travaillant de nos propres mains. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Diffamés, nous encourageons. Nous sommes devenus les déchets du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Nous arrêtons ici notre lecture. Comme je disais, je vais commencer par un rappel du contexte de l'épître aux Corinthiens, parce que là on se rend compte qu'on arrive au milieu d'un développement, au milieu d'une conversation qu'a Paul avec ses interlocuteurs. On l'a lu au début, c'est à cause de vous que je vous dis tout ça, mais tout quoi. Donc un petit rappel, mais avant j'aimerais poser une question préliminaire. Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce important de comprendre les problèmes d'une église, des problèmes vieux d'il y a 20 siècles? Pourquoi est-ce qu'on les étudie encore aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on prend ce temps? Je crois que c'est important parce que ce sont les mêmes problématiques que nous rencontrons aujourd'hui et que les avertissements spécifiques que donne Paul à cette église ont aussi une portée directe pour ce que nous vivons aujourd'hui. Les Corinthiens. Les Corinthiens, quand on lit les premiers chapitres, très rapidement, dès l'introduction, dès le début de la lettre, on se rend compte qu'ils ont un problème de division dans cette église de Corinthe. Il y a différents partis, des gens qui se réclament de tel apôtre, des gens qui se réclament de tel autre, certains de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Pierre. Et il y a comme ça une concurrence. Et ça, on peut certainement l'expliquer par le contexte dans lequel vivent les habitants de Corinthe. Un contexte où il y a une exaltation de la sagesse. Une société où on recherche la sagesse. Il est de bon ton d'être de la bonne école de pensée, celle qui rassemble le plus de disciples, celle qui convainc le plus de monde. Et donc, ils appliquent l'évangile à ce monde dans lequel ils vivent. Il mélange l'évangile avec les sagesses. Il cherche une sagesse en se basant sur l'évangile. Il cherche à trouver la meilleure sagesse évangélique. Et comme conséquence, eh bien, il y a ces problèmes de division, ces esprits de parti, les uns pour les autres. Je crois que la motivation derrière cette recherche de sagesse, c'est celle de plaire au monde qui les entoure. Ils cherchent, il me semble, à faire reconnaître aux yeux du monde la supériorité de leur état de chrétien. Dans ce monde qui cherche la sagesse, ils sont heureux de dire « Eh bien, nous avons une sagesse encore plus sage ». Mais du coup, dans cette recherche de sagesse, les voilà qu'ils fouillent à droite, à gauche, ce qu'ils trouvent, ce n'est pas forcément les mêmes choses, et les voilà en concurrence les uns avec les autres. Et l'unité, eh bien, elle est attaquée. Et donc, on l'a lu dès le début, Paul rappelle, si j'ai dit cela, c'est à cause de vous. Et donc, ce qu'il a dit, eh bien, c'est justement, cette unité, elle est importante. Elle est importante parce que Christ est un. Et on ne peut pas dire qu'on est avec Jésus-Christ et être en concurrence les uns avec les autres. Si Christ est un, alors ceux qui le suivent sont un, ils sont unis. Et d'ailleurs, les apôtres, Paul, Apollos, Pierre, sont unis. Les Corinthiens ont beau dire « moi je suis pour lui, moi je suis pour tel autre », les apôtres, entre eux, sont unis. Ils sont unis comme des ouvriers qui travaillent sur le même chantier. C'est une image que Paul a employée un peu plus tôt. Des ouvriers, comme des agriculteurs, l'un plante, l'autre arrose. Comme des bâtisseurs, un pose des fondations, l'autre pose les pierres par-dessus. Mais c'est au même chantier qui les unit, qu'ils travaillent. Il leur a rappelé également qu'en plus de cette unité, le message dans lequel ils croient, c'est une folie pour le monde. Il l'a dit dans les chapitres précédents, ce qui est sagesse de Dieu, c'est folie aux yeux des hommes. La croix, ce sacrifice que nous avons chanté tout à l'heure, la croix qui nous rachète pour rien, juste parce que nous acceptons de nous abandonner à Jésus. Il n'y a aucune gloire à en tirer. C'est même un scandale pour les Juifs, une folie pour les Grecs. C'est hors sujet pour le monde. Et donc, dans le passage que nous avons lu, Paul rajoute une couche, et il rajoute une bonne couche d'ironie avec cette réplique « Vous régnez ». Déjà, vous régnez. Vous, vous êtes des rois. Vous avez tout, vous croyez tout avoir. Vous pensez avoir trouvé ce qu'il faut dans cette vie, ce qu'il faut pour avoir la reconnaissance de la société dans laquelle vous vous trouvez. Faire reconnaître que votre foi chrétienne, c'est un bénéfice, c'est une bonne chose. Qu'elle vous vaut des honneurs. Que vous avez tout compris à la vie. Mais c'est hors sujet. C'est hors sujet parce que ils n'ont rien qui ne leur a été donné. C'est une deuxième chose qu'il dit. Qu'est-ce qui te distingue ? Qui te distingue ? Qui trouve que tu as de l'importance ? Qu'est-ce qui valide cette sagesse que tu défends. Les apôtres, ils ont leur ministère, ils ont les églises qu'ils implantent, ils ont ces fruits-là. Qu'est-ce que toi, avec la sagesse que tu as trouvée, qu'est-ce qui vient la valider? Et même plus loin, qu'est-ce que tu as qui vient de toi, que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce qu'il y a qui est à toi, vraiment à toi, dont tu peux être fier? Parce que quand on regarde bien, l'Évangile, il leur est venu annoncé par Paul. Ce n'est pas eux qui l'ont découvert par eux-mêmes. La croissance qu'ils ont eue avec Apollos, elle n'est pas venue par eux-mêmes. Et même ce dont ils sont fiers, on le verra dans les chapitres suivants, ces dons de l'esprit, ces manifestations bruyantes et spectaculaires dont ils tirent tant de fierté, d'où viennent-elles, si ce n'est de Dieu? Quelle fierté en tirer? Qu'est-ce qu'ils ont à eux? Et je crois plus largement encore. Qu'est-ce que tu as dont tu peux être fier? Si tu n'étais pas né dans cette famille, avec cette nationalité, avec cette santé, si Dieu ne t'avait pas donné le souffle de vie, qu'est-ce que tu as dont tu peux être fier? Il les remet à leur place. Et il les invite à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Il est écrit, c'est l'expression couramment employée pour désigner la parole de Dieu. La parole écrite de Dieu. Alors, ça pose un problème, puisque là, on est au milieu du Nouveau Testament et que, en toute logique, lorsque Paul écrit, au moins la première épître aux Corinthiens n'est pas écrite. Mais d'autres livres encore. Mais quand même, en scrutant le Nouveau Testament, on se rend compte de ce que les apôtres ont conscience de participer à l'élaboration de la parole de Dieu, de ce que Dieu les inspire et de ce que ces paroles qu'ils écrivent sont paroles de Dieu. On le retrouve dans les citations qu'ils font de l'Ancien Testament, mais aussi de l'Évangile. On le retrouve dans la façon dont ils parlent de leurs écrits, des leurs et ceux des autres aussi. Ne pas aller plus loin que ce qui est écrit. Ne pas aller plus loin que la parole de Dieu, ne pas venir ajouter son grain de sel, sa révélation supplémentaire. Si c'est de Dieu que tout vient, lui qui m'a envoyé l'évangile que j'ai reçu, lui qui m'a donné les dons, lui qui m'a tout donné jusqu'au souffle de vie, si c'est de lui que tout vient, alors c'est lui la source dont je dois puiser. La sagesse n'est pas une mauvaise chose. La Bible parle de la sagesse comme quelque chose qu'il faut suivre. Mais la Bible nous explique que c'est Dieu la sagesse. La sagesse, il ne faut pas la trouver, la construire nous-mêmes. Il nous faut la reconnaître en Dieu et la suivre. Cette sagesse, elle nous vient de l'extérieur. Cette sagesse aussi, elle nous est donnée. C'est le message biblique. Vous régnez. Dans son ironie, Paul fait remarquer combien leurs aspirations à régner, à être reconnues dans cette ville de Corinthe, est en contraste avec ce que vivent les apôtres. Autant Paul est ironique avec ce règne, autant il est poignant quand il parle de ce qu'il vit en tant qu'apôtre, de ce qu'il vit personnellement. Il le dit, ils ont la dernière place. Ils sont comme donnés en spectacle, et on se représente très bien ce que c'est dans cette société romaine, donnés en spectacle comme dans les jeux du cirque, où ceux qui sont vaincus, ceux qui sont inconsidérés, sont là, devant les autres, en spectacle, pour divertir. Ils ont la dernière place, ils sont moqués de tous. Ils ne sont pas considérés dans le monde, mais pire encore, ils sont maltraités, persécutés. Voilà la vie des apôtres. Et le contraste frappe. Parce que les Corinthiens ne sont pas supérieurs aux apôtres. Les apôtres, Jésus leur a donné un ministère. Ils ont fondé des églises autour de la Méditerranée. Ils ont fondé l'église Ils ont un ministère fructueux. Et pourtant, le succès n'est pas au rendez-vous dans ce monde. Le succès n'est pas au rendez-vous. Ils sont les derniers, ils sont maltraités. Plusieurs mourront sous la persécution. Mais ils font le choix de la fidélité à Dieu, de la fidélité à Jésus qui a averti. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi. Voilà ce qu'est la fidélité à Dieu, la fidélité à Jésus. Ne pas être traité mieux que ce que Jésus a été traité. Ce que les Corinthiens oublient, c'est qu'ils ne sont pas à la fin de l'histoire. Tout n'est pas encore accompli. Jésus doit encore revenir. Il l'a dit, il revient bientôt. Et nous avons parlé il y a 2 semaines dans la prédication. Jésus revient demain. Et demain, c'est demain. Même si demain, c'est un peu aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on peut déjà goûter à ce qui arrive. On n'est pas encore pleinement dans ce qui arrive. La vie chrétienne, la vie avec Jésus-Christ, c'est une tension entre ce qui est déjà là, ce que Dieu nous donne déjà comme un avant-goût, le Saint-Esprit qui est en nous, et tout ce qu'on peut vivre avec lui, et puis ce qui est encore à venir, ce qui nous retient de vivre pleinement le royaume de Dieu. Les Corinthiens visent à avoir tout dès aujourd'hui, à tel point que certains commentateurs pensent même qu'ils nient la résurrection complète, tellement ils pensent tout avoir. Et Paul les reprend. Il les reprend à cause d'eux. Ils ne sont pas plus grands, ni que les apôtres, ni que Jésus. Il les recadre. Il les invite à ne pas rechercher à plaire au monde, mais à Jésus, même si les conséquences sont difficiles. Suivre ce qui est écrit, ne pas s'en écarter, rester dans l'humilité, être prêt à en payer le prix. Je disais plutôt qu'il était utile de lire ces écrits, vieux de presque 20 siècles, parce que nous aussi, nous pouvons être face aux mêmes problématiques. Nous aussi, nous pouvons avoir la tentation de la sagesse, vouloir faire reconnaître que nous avons un savoir supérieur, vouloir faire un mix du christianisme et de la sagesse ambulante, montrer ce que le christianisme apporte en plus comme bienfait pour aujourd'hui. Oublier que le christianisme se suffit à lui-même. Le message de Jésus se suffit à lui-même. Donc cette tentation existe, mais il y en a d'autres. Philippe, la semaine dernière, a profité du pont du 15 août pour faire le point sur le sujet Marie. Dans un contexte de paganisme animiste des premiers siècles de notre ère, effectivement, c'était plutôt bien joué d'avoir une personnalité féminine, une déesse féminine pour être dans ce que la société attendait. Mais aujourd'hui, il me semble, ce qui plaît, c'est l'épanouissement personnel, le bienfait personnel. Et on peut être tenté d'insister sur ce que l'Évangile nous donne comme bienfait pour aujourd'hui. Et ça donne, entre autres, l'Évangile de prospérité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, et si vous en avez entendu parler, si vous savez ce dont il s'agit exactement. L'Évangile de prospérité est une théologie qui dit que la prospérité est promise aux croyants, au même titre que le salut. En fait, quand on accepte Jésus, on a tout dans un package, le pardon des péchés, mais aussi la bonne santé. Le chrétien est racheté de la malédiction de la maladie. Et on a aussi la richesse. Dieu promet pour aujourd'hui la bénédiction financière. Et on a également la libération des influences démoniaques. Toutes ces bénédictions, santé, richesse, Dieu veut nous les donner, mais elles sont bloquées par des démons dont il faut se libérer. Voilà ce que dit cette théologie. Toutes ces bénédictions, Dieu nous les a données. À nous de les recevoir en mettant en œuvre différents mécanismes, dans la prière, dans le don, dans l'exercice de la foi. Les chrétiens sont appelés à prendre autorité sur les puissances démoniaques pour débloquer les guérisons, les bénédictions. Et c'est aux chrétiens de saisir ça par la foi, par des techniques de prière où on déclare avoir déjà reçu la mise en œuvre de sa foi. Et si ça ne marche pas, c'est que ta foi était trop petite, mon ami. C'est une position assez confortable, finalement, pour celui qui le prêche, puisque la réalisation dépend de celui qui écoute et de sa foi. Il y a, quand on cherche à discuter de ces sujets-là, il y a un argument auquel il est parfois difficile de répondre. Cet argument dit que tout ceci, la santé, les richesses, ce sont de bonnes choses. Effectivement, ce sont de bonnes choses. Et dans la Bible témoigne que ce sont des bonnes choses. Témoigne de ce que la bonne santé, l'aisance financière sont des bénédictions et qu'elles viennent de Dieu. Ce sont des bonnes choses et Dieu nous aimant, ne veut-il pas pour nous ce qui est bon? Voilà l'argument qui est opposé à ceux qui ont des réserves sur la théologie de la prospérité. Est-ce que tu crois que Dieu ne nous aime pas pour nous refuser de telles bénédictions? Et c'est difficile de répondre à un tel argument. Mais je crois qu'une réponse possible, en tout cas celle que j'aime donner, c'est que ce n'est pas nous qui définissons l'amour de Dieu. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu comment il nous aime. L'amour de Dieu, nous le comprenons de ce que Dieu nous fait, nous ne le définissons pas. Il sait ce qui est bon pour nous et nous n'avons pas à lui expliquer ce qu'est l'amour. Imaginez un enfant de 4 ans. Papa, je veux une console Nintendo DS. Papa, pourquoi est-ce que tu ne me la donnes pas? Papa, est-ce que tu ne m'aimes pas? Comme le parent sait ce qui est bon pour son enfant, Dieu aussi sait ce qui est bon pour nous. Et son plan pour nous, tel qu'il nous est révélé dans la Bible, tel qu'il nous est révélé dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la prospérité pour le monde actuel, c'est la sanctification. La sanctification. Il cherche à nous rendre toujours plus conformes à sa volonté, toujours plus capables de faire ce qu'il veut. Et les circonstances que nous vivons, les joies ou les difficultés, il s'en sert pour nous façonner, pour nous rendre conformes à ce qu'il veut. Disette ou abondance, maladie ou santé, pour nous faire progresser. Alors oui, la Bible promet la fin des maladies. La Bible promet qu'on ne manquera de rien. Elle promet même le règne. Il y a cette béatitude dans Matthieu, « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre ». mais elle promet que ce sera complet au retour de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons dit il y a 2 semaines dans la prédication. Nous avons toutes ces promesses. Et Jésus, Dieu, les ont garanties par le Saint-Esprit qui est en nous, comme un sceau qui dit « Oui, vous hériterez de ces promesses, elles arrivent », comme un acompte. Nous les possédons déjà, même si nous n'avons pas la jouissance. Nous les possédons comme une promesse, par anticipation. Et nous avions pris il y a 2 semaines l'image du débarquement, en juin 1944, quand les Américains posent le pied en Europe continentale et en France. L'Allemagne a perdu, mais il y a quand même ce temps entre deux où il a fallu reprendre la France ville par ville. Nous sommes dans ce temps entre deux. La victoire est remportée par Jésus-Christ, mais nous attendons son retour et la marque de sa victoire finale. Nous sommes entre le déjà et le pas encore. Et déjà, nous avons des guérisons. Jésus a guéri beaucoup de monde et il guérit encore aujourd'hui. Les guérisons sont des signes du royaume à venir. Mais elles ne sont pas automatiques. Et Paul rend témoignage dans ses écrits de cette écharpe dans la chair dont il a demandé d'être débarrassé, que le Seigneur lui a dit non. Nous avons aussi l'invitation à demander de ce que Dieu répond à nos prières, y compris sur le plan matériel. C'est une promesse que Dieu donne. Et nous avons ça comme signe du royaume à venir, mais ce royaume n'est pas encore là. Ce n'est pas automatique. Il faut bien comprendre que ce n'est pas la foi qui produit les réponses à ces prières. C'est Dieu qui donne. Et un des problèmes de l'évangile de la prospérité, c'est qu'il invite à avoir foi en la foi. Ma foi particulièrement forte peut me faire récupérer ceci ou cela. Alors que l'objet de la foi, ce n'est pas ma foi, c'est Dieu. C'est vers lui que je me tourne, lui qui sait mieux que moi-même ce dont j'ai besoin, et qui me donne ou non, selon ce qu'il a décidé, et qu'il sait ce qui est bon pour moi. C'est sur lui que nous pouvons compter. C'est sur lui que je veux compter. Et du coup, nous aussi, dans cette église, l'église baptiste de Clermont-Ferrand, je pense que nous pouvons garder ceci en tête. Nous voulons grandir. Nous avons un projet d'église, de croissance, de faire des disciples qui font des disciples. Pour vivre ce projet, nous nous engageons dans un projet immobilier, dans des bâtiments plus grands. Nous voulons grandir. Mais gardons en tête, c'est pour le Seigneur que nous voulons le faire, pas pour notre propre gloire. Gardons en tête que c'est lui qui donne. Gardons en tête que nous voulons rentrer dans ce qu'il a prévu et non pas lui imposer ce que nous avons prévu, lui réclamer ce que nous avons prévu. Et soyons certains que la croissance s'accompagnera de difficultés. La vie des apôtres, le témoignage de Paul dans ce passage, montre qu'une église qui marche, qu'une église qui porte du fruit, s'accompagne de difficultés. Comme les apôtres, attendons-nous à être les derniers? Attendons-nous à vivre la faim, le dénuement, la vie errante, le travail difficile, les insultes, les persécutions, la diffamation? Une église qui est reconnue, une église qui est appréciée, c'est louche Est-ce que c'est parce qu'elle ne dérange pas? Or, l'Évangile dérange. L'Évangile déplaît intrinsèquement. Parce qu'il dit, il répète que tout n'est pas pour ici. Parce que il refuse de suivre le style de vie de notre génération, de courir après l'argent, la santé. Parce qu'il dit que toutes ces choses, aussi bonnes soient-elles, ne sont que vanité, passagère, temporaire, qu'elles s'effaceront avec le retour du Christ. Soyons prêts. Soyons prêts parce que c'est ce genre de succès que nous visons, celui où nous plaisons au Seigneur, quelles que soient les conséquences. Je crois que des nombreux avertissements que nous trouvons dans la première épître aux Corinthiens, nous pouvons garder celui-là aussi. Celui de ne pas chercher à former un évangile qui plaît, à réécrire l'évangile à la mode d'aujourd'hui. L'évangile qui cherche le succès pour maintenant et qui le donne. Mais nous devons rester fidèles à ce qui est écrit, y conformer nos vies, quoi qu'il en coûte. Ne pas dépasser de ce qui est écrit. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.